Alors, je suis Lily. Alors, bienvenue. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes? Oui. Vous êtes nouvelle? Mais qui est pour la première fois? Complètement première? Tout à fait. Alors, bienvenue. Est-ce que vous avez entendu parler de la pleine conscience? Oui. Thich Nhat Hanh?
Non.
D'accord. Alors, ici, c'est un centre de méditation. Ça s'appelle une maison de pleine conscience. On l'appelle une maison de pleine conscience parce que notre pratique est d'apprendre à vivre en pleine conscience à tout moment de la journée. Et nous suivons les enseignements d'un moine zen vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Nous avons sa photo quelque part là. Les enseignements de Thich Nhat Hanh sur la pleine conscience s'appliquent à tout le monde. C'est-à-dire que ici, nous ne suivons pas une religion. Toute personne de toute religion et de toute nationalité, toute appartenance peut venir pour apprendre la méditation de pleine conscience. C'est quand même un centre bouddhiste, mais l'accent est porté sur la pleine conscience. Et on, de toute façon, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Mais parce que le principe de base de l'enseignement bouddhiste, c'est de faire attention et de vivre avec attention. Alors, juste ce mot veut tout dire. Comment est-ce que nous pouvons vivre avec attention? Nous croyons que c'est évident ou nous croyons que c'est facile et nous connaissons tous le mot attention et nous le répétons à nos enfants depuis qu'ils naissent et à l'école, on le leur répète, on les éduque. Fais attention, fais attention. Mais on le répète moins aux adultes. On le dit aux enfants. Mais quand les enfants sont grands, s'ils sont encore à la maison, on va encore peut-être le leur dire. Mais une fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes, je sais pas, on le répète moins. On le dit moins. Fais attention, fais attention. Et la vie de tous les jours nous amène à revenir à cette notion-là. Les événements, les émotions, tout ce qui nous arrive nous ramène vers quelque chose qui nous fait dire « Oh, je ne savais pas, oh, j'ai pas vu, oh, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire comme si, j'aurais dû faire comme ça. » Et tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas fait attention quelque part. À un moment donné, on s'est laissé emporter. Le stress nous emporte, le travail nous emporte, les émotions nous emportent, tout nous emporte. Et qu'est-ce qui découle de ça? C'est des tensions, des anxiétés, des angoisses. Pourquoi je reviens au mot angoisse? Parce que la colère sort, c'est une émotion qui sort, on la voit, elle jaillit. L'angoisse se voit moins, l'anxiété se voit moins. On voit les personnes, on ne pourrait pas dire ici maintenant qui est anxieux, qui est angoissé. Peut-être en parlant, on va le dire, on va l'exprimer, mais c'est en dedans de nous, l'angoisse, l'anxiété, les inquiétudes. Et ça fait mal. Les tristesses aussi, c'est moins visible. Alors la pratique de la pleine conscience, c'est de regarder tout cela. Mais par où on commence? C'est très beau de dire qu'il faut faire attention toute notre vie. Mais toute notre vie, on n'a pas envie d'être aux aguets. On n'a pas envie d'être comme des détectives ou des policiers il y a une autre façon de le faire. Et une façon plus douce. Et c'est ce qu'on apprend. C'est ça, notre pratique. On veut apprendre à ce que une vie en pleine conscience devienne douce et moins rigide et naturelle. Alors, le Bouddha, quand les gens venaient le consulter ou apprendre de lui, il revenait toujours à observer votre corps, observer vos sensations, observer vos émotions, vos perceptions et votre conscience. Alors, juste avec ces 5 choses, c'est déjà toute notre vie. C'est tout ce qu'on a à regarder. Alors, en général, on ne commence pas par la conscience. On va commencer par quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qui est là tout le temps, c'est notre corps. On pourrait s'allonger ou ne rien faire et puis dire, oh mais maintenant aujourd'hui, je vais regarder ma conscience. Mais l'un est relié à l'autre. On ne peut pas tasser le corps et dire, je vais faire attention juste à mon esprit et à ma conscience. On a le principe de base qui est l'interdépendance. Et c'est tellement important de savoir que tout est relié, qu'une émotion est reliée à une sensation, qui est reliée à une pensée, qui est reliée à un acte physique, qui est reliée à une parole. Et le travail de la pleine conscience, c'est de commencer à regarder où ça commence. Alors, on revient à la chose de base qui est la respiration. Quand on s'assoit en méditation, on ne s'assoit pas en disant « là, je vais faire attention à ma conscience ». On s'assoit tout simplement et on commence à rentrer dans notre respiration. Parce qu'elle, elle est là, elle est permanente tant qu'on est vivant. Elle est régulière. Elle est notre principe de vie. Elle nous dit comment nous nous sentons. Elle nous dit si notre respiration est haletante, si elle est douce, si elle est... Quand on est en colère et si on va s'apaiser, quand on a peur... Tout, c'est un souffle qui va nous apaiser. Alors, on revient à elle pour voir ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce que c'est? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens en ce moment? Et on la suit, on la suit, on la suit. C'est tout ce qu'on commence à faire. Et elle nous apaise. Et une fois qu'on est apaisé, parce qu'on est apaisé, après quelques instants d'assises, au moins notre corps et notre respiration sont apaisés. Quand c'est apaisé, sans rien faire d'autre, notre esprit, notre cerveau dit ce qui se passe. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Comment l'expliquer, comment le dire, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et pour mieux le comprendre, on a toujours cette image de l'eau trouble qui, une fois au repos, devient claire. Et il en est de même pour nous-mêmes. Notre corps, notre esprit, ça se dépose et on reste vigilant, on reste assis et on observe. Alors, si on n'a jamais fait de méditation, si on se demande par quoi commencer, on commence par l'arrêt. L'arrêt va nous calmer. C'est l'étape. Le cinquième ne peut pas arriver si le premier n'est pas là. Il faut s'arrêter. Quand on s'arrête et qu'on est calme, on observe et on... Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'une sensation apparaît. J'ai froid, j'ai faim, j'ai chaud. On observe si on est bien, si on n'est pas bien. C'est agréable, c'est pas agréable. Et on revient à la respiration. et on continue à observer. On observe l'humeur, l'émotion. Je ne suis pas bien, je suis triste. Je suis tranquille aujourd'hui, je suis joyeux. Et on revient à notre respiration. Et chaque fois qu'on s'assoit en méditation, on observe ça. Et on continue à regarder. Maintenant, le travail plus profond, c'est de voir les causes. Comment ? Il y a un début, il y a une cause. Et grâce à cet arrêt et à ce calme, un événement de la veille va apparaître, ou bien on va comprendre parce que c'est une parole qui a provoqué cette humeur-là. C'est un geste de quelqu'un, ou bien c'est un antécédent, ou c'est une hérédité, tout ça. Ça, c'est la méditation profonde. Et quand on dit qu'on s'assoit et qu'on laisse l'assise faire son travail, il y a aussi un objet de méditation qu'on peut se fixer. Alors, on peut s'asseoir, juste s'asseoir, s'arrêter, se calmer, juste comme ça, 20 minutes, 15 minutes. Et mais un autre jour, on peut se fixer un objet de méditation. Alors, ça peut être notre colère, ou ça peut être notre peur, ou ça peut être notre anxiété. C'est l'objet de méditation. Et on a des méditations guidées aussi, comme pour nous aider. Le thème de la journée de pleine conscience aujourd'hui, et qui suit tout ce que nous avons appris pendant cette année, c'est le refuge. Je prends refuge. Qu'est-ce que ça veut dire, je prends refuge? Quand on parle de refuge, on pense à un abri, on pense à un endroit où on est tranquille, rassuré, en sécurité. Mais dans l'idée de prendre refuge, comme si on est bien, pourquoi est-ce qu'on prendrait refuge? Quand il y a du soleil et qu'il ne va pas pleuvoir, on ne cherche pas un abri. Je cherche un refuge. Quand on pense à refuge, on pense à quelque chose qui va nous rendre, qui va nous faire un peu plus de bien. Dans la notion de refuge, ça veut dire qu'il y a un problème ou quelque chose où je veux me réfugier quelque part. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là-bas, je n'étais pas bien. Alors, je cherche un refuge. Mais c'est quoi le là-bas qui n'est pas bien? Je prends refuge sous une tente parce qu'il pleut. Je prends refuge chez mes parents. Alors, où est-ce que je prends refuge? Quand on est désemparé, quand on a des problèmes, et on en a, on a tous un lieu où on va aller. Alors, ici, on est là ensemble aujourd'hui, c'est la maison de pleine conscience. Je ne sais pas si vous êtes venus pour prendre refuge, mais nous venons tous les mercredis soirs, tous les lundis soirs, tous les jeudis soirs. Nous venons souvent ici pour prendre refuge. Trouver quelque chose qui nous apaise, pour trouver cet outil qui va nous permettre d'améliorer notre vie, notre quotidien, notre humeur. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors, quand on arrive pour la première fois, il y a plein de choses. C'est comme si on a une valise toute pleine. Je vais améliorer ci, je vais améliorer ça. Au fur et à mesure qu'on intègre la pratique de méditation dans notre vie, les choses se définissent, s'éclaircissent. Tiens, j'avais pas tellement besoin d'améliorer. Quand on entend parler de peur ou d'anxiété, la peur, moi, non, pas particulièrement la peur pour moi. L'anxiété, peut-être. La colère, non. Alors, mais au début, on ne le sait pas. C'est comme tout est pêle-mêle et on pense qu'on souffre de tout. Non. La pleine conscience, c'est une lumière, c'est une énergie. On a besoin d'images pour nous faire comprendre. C'est beaucoup mieux. Mais quand on pense à un phare ou à un projecteur, projecteur, il va mettre l'accent sur quelque chose. Alors, si je balaye, ben, ça fait une vue d'ensemble. Et puis, je regarde. Je suis assise en méditation, je ne veux pas vous aveugler, mais je balaye et je regarde. Après, je dis, oh tiens, ça c'est mon genou qui fait mal, mais je continue à respirer tranquillement. Ah, ma tête me fait mal aujourd'hui. Je continue à... Et c'est ça. Je reste assise et je regarde. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours assis. On marche, on bouge. Alors, comment on utilise la pleine conscience? Toujours avec les enseignements du Bouddha, l'attention s'applique en s'asseyant, en bougeant, en marchant, allongé. Les quatre postures, donc on revient toujours au corps. Ça commence par le corps. On ne peut pas le négliger. Je marche, je m'assois, et pas seulement sur un coussin, pas seulement dans un temple, pas dans un endroit spécialisé, dans la vie de tous les jours. Alors, c'est comment ramener la pratique de la pleine conscience dans notre quotidien. Et c'est ça ce que nous voulons faire. C'est le quotidien. Depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, mon corps va faire tout ça. Je vais faire tout ça. Alors, je peux le faire à l'aveuglette, je peux le faire comme une automate. On parle de pilote automatique tout le temps. Et je suis emportée par la vie. Et je suis emportée. Et je ne me rends pas compte. Et je cours vers le métro. Et j'apporte ma boîte à lunch vite. Et puis, pff, et les enfants, je les bouscule. Et allez vite, il faut s'habiller. Tu vas rater le bus. Tout ça. On dit stop. On arrête. Mais qu'est-ce que ça veut dire arrêter? Quand le bus est là à la porte, il ne va pas t'attendre. Alors, tu t'arrêtes pas à dire, ah ben tiens, je m'arrête et je vais voir la pleine conscience. Non, tu t'arrêtes, même en courant. Tu t'arrêtes en disant, je suis pressée, je suis stressée. Tous les matins, c'est comme ça, c'est la course. Et j'en prends conscience. Et alors, je choisis un moment dans la journée pour m'arrêter vraiment et regarder comment je ne suis pas capable de m'arrêter pendant la journée. Alors, ce sont des choses très concrètes. C'est pour ça qu'on a une méditation assise. C'est pour ça qu'on a une méditation marchée. La méditation marchée, ben, encore une fois, l'exemple du bus. Le bus est là-bas. On voit tout le monde courir et moi, je dis non, je vais faire ma méditation marchée. Il va m'attendre. Ben non, il ne va pas m'attendre. Je peux y aller vite en méditation marchée. Alors, c'est la pleine conscience tout moment, dans n'importe quelle action de la journée, c'est de ramener le spirituel dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, sans la rejeter, sans la nier, sans la fuir non plus. Et c'est une pratique. Alors, quand on vient ici pour la première fois, on a toutes sortes de questions. Je cherche un endroit pour régler mes problèmes. Donc, ça veut dire qu'on cherche ailleurs. Quand on a une douleur, quand on est petit bébé, on s'accroche à notre mère, on s'accroche à notre père. On cherche ailleurs. On cherche un soutien ailleurs. On grandit, on cherche un soutien dans les livres. Ça ne marche pas, on cherche un soutien chez un maître, un gourou, quelqu'un. Ah, ça, ça me convient. Ça ne me convient pas. Ah, lui, il est formidable. On cherche ailleurs. On va faire toutes sortes de retraites. On va essayer toutes sortes de séminaires, des ateliers, les week-ends. On cherche. On est tout le temps à la recherche de quelque chose. Parce qu'on veut se soulager. On veut apaiser nos problèmes. Et puis les années peuvent passer et on s'aperçoit qu'on n'a rien réglé du tout. On a toujours les mêmes problèmes. On n'est pas mieux. Alors là, ça demande un grand arrêt. Un arrêt double, avec majuscule. Alors Bouddha, au moment de mourir, il y avait ses disciples qu'il aimait beaucoup et qui pleuraient. Et il leur a dit, ne pleurez pas. C'est seulement mon corps physique qui va partir, que vous n'allez plus voir. Mais il va être transformé. Il va prendre une autre forme. Et aussi, j'ai enseigné quelque chose. Mais même ça, vous allez l'oublier. Pourquoi ? Comment est-il capable de dire ça ? Parce que l'enseignement est dans la vie. Alors que ce soit Bouddha, ou Jésus, ou Moïse, ce sont tous des personnes très intelligentes, très sages, qui ont compris des choses, qui nous ont beaucoup appris, qui nous aident beaucoup, qui nous poussent, qui nous projettent. Le coup de pouce, c'est ça. Mais papa, maman, nos professeurs, l'université, toutes ces personnes qu'on admire, les amis, tout ça c'est impermanent. Ils s'en vont tous. Papa, maman, le professeur, Bouddha, Jésus, Moïse, ils sont tous morts. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous cherchez ? C'est pour ça que j'ai aimé le bouddhisme. Parce que un des livres que j'ai lu, c'était le bon. Et j'en ai lu. Mais on dit toujours que quand on écoute quelque chose qui nous plaît, quand on rencontre une personne et qu'elle dit quelque chose qui nous plaît, c'est parce que, tout simplement, on reconnaît, parce que c'était déjà en nous, parce que c'est en nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, on dit l'âme sœur, ou bien on aime une personne, ou on aime... C'est parce que ça reflète ce qu'on aime, ça reflète, ça fait ressortir la belle chose qui est déjà en nous. Et qu'on ne savait pas, qu'on ignorait. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois, j'étais vulnérable ou dépendante. Dépendante affective. Comme mon bonheur vient d'une personne. Et cette personne n'est pas là, tout est fini. Ou bien, si je ne fais pas ça, je vais être punie. Ou, c'est notre éducation judéo-chrétienne comme le péché, la punition, le jugement. Ou alors, c'est parce que j'ai eu une telle éducation. C'est parce que on m'a élevé trop sévèrement, on ne me permettait pas de faire ci, on ne me permettait pas... On cherche toujours un bouc émissaire, la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un, si je suis comme ça. Jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase, et c'est dans le tout petit livre-là, l'enseignement du Bouddha, je suis sûre que vous le connaissez, Rahula. Il est petit comme ça, et il explique les enseignements, ce que Bouddha a dit. Et tout à fait au début, il dit, ne croyez pas que quelqu'un va vous juger ou que quelqu'un vous attend dans l'autre monde pour vous punir. Non. Vous êtes responsable de ce que vous faites. C'est pas dans le mauvais sens. Il faut pas le prendre comme ça, comme c'est, tu es responsable. C'est que tout à coup, vous balayez tout. Ce n'est pas la faute de maman, ce n'est pas la faute de papa, ce n'est pas la faute de l'enseignant. Ce que je fais, c'est moi. Si je veux être heureux, c'est moi. Pourquoi toujours attendre les autres ? Pourquoi toujours attendre des, comme dit Thich Nhat Hanh, je vais dire Thaï parce que c'est plus facile. Pourquoi aller si loin ? Pourquoi ne pas chercher ici même ? Pourquoi ne pas regarder ici même ? La maison du voisin est plus belle, son gazon est plus vert, il n'a pas de mauvaises herbes. C'est comme on est projeté dehors et pas dedans. Alors la pleine conscience, c'est de nous ramener là où on est, à partir de là où on est, à partir de ce qu'on a, à partir de ce corps qu'on veut changer, à partir de cet esprit qu'on veut transformer. Pourquoi tout rejeter? Et pourquoi ne pas regarder d'abord à la base par quoi ça commence? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Regardez le corps. Observe le corps, dit Bouddha. Observe le corps dans le corps. Ça veut dire à travers ce qu'il fait. Pas je vais m'asseoir là et je vais voir mon corps comme s'il était sur un lit ou une, et c'est pas moi. Non, c'est moi dans moi. C'est moi avec mes douleurs, c'est moi avec mes envies, c'est moi. Et déterminé. Est-ce que je veux changer ça? Ok, il y a des choses que je veux changer. Physiquement, c'est difficile. La nourriture, je peux changer. Mais pourquoi est-ce que je veux changer cet œil et ce nez, ce truc et ce... Donc, se libérer de choses qu'on veut changer, éliminer les choses que je ne peux pas changer et regarder les autres choses. Donc, observer le corps et puis observer ces sensations qui reviennent et qui s'en vont. Ça, c'est l'impermanence. C'est tellement merveilleux de voir et de se rappeler que ça s'en va, que c'est parti. Qu'une sensation que j'avais quand j'avais 6 ans, est-ce que je me rappelle? Je ne me rappelle même pas. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont émerger, qui vont rester là. Oui, je me rappelle quand j'étais à la plage et que l'eau était glacée, et puis on voulait absolument me faire rentrer dans l'eau. Et on peut se rappeler de certaines sensations. Mais les autres, il y en a trop, c'est pas possible, on ne peut pas se rappeler de tout. Pareil avec les émotions. On n'a pas toutes les émotions, on en a quelques-unes. Et il y en a qui reviennent. Et c'est celle-là qu'il faut regarder. Alors, regardez la chose qui revient et qui persiste, et qui persiste, et qui persiste. Et sur celle-là, on peut faire un travail. On peut aller regarder en arrière. Là, on s'assoit et on regarde. Est-ce que papa, maman avaient ces émotions-là? Quel genre m'entoure et qui provoque ces émotions? Quel événement? Quel film? Il faut décider de se nourrir avec des choses qui nous font du bien. Pas. Hier, quand mon mari voulait... Bon, il me dit toujours, tu dois voir ça. C'est un film qui s'appelle Les Prisonniers. Okay. Bon, j'ai regardé et puis en allant dormir je me suis rendu compte que ça m'avait fait très mal et la torture tout ça. En montant les escaliers je me suis dit je ne vais plus regarder ces choses là même si c'est connu, il faut le voir, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Je me mets au lit mal, c'est un choix, je ne veux plus. Pourquoi est-ce que je ne me contenterai pas de ce qui est beau? Et ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est Thich Nhat Hanh. On a un extrait d'un livre là qui dit « Qu'est-ce qui va bien ?» Regardez ce qui va bien. Et la première fois qu'on le lit, on dit « Le ciel bleu ». On se dit « Oh, encore le ciel bleu ». Mais non, mais regardez le ciel bleu. Bon Dieu, est-ce qu'il est beau ce ciel bleu? Le sourire d'un enfant, on dit c'est niaiseux. Non. Et pourquoi est-ce que ce serait bête de dire que le sourire d'un enfant est beau? Une plante, une fleur, l'odeur de ce jasmin, sentez-le tout à l'heure, vous allez voir, ça sent tellement bon. Mais pourquoi est-ce qu'on rejetterait ça? Pourquoi est-ce qu'on dirait il y a des choses plus importantes? C'est ce dénigrement qu'on a de penser que c'est futile, que c'est banal et que ça n'est pas important. C'est ça notre erreur. On perd notre spontanéité. Alors je reviens à la notion du refuge. Je prends refuge en moi-même. Bouddha a dit, prenez refuge en vous-même et en personne d'autre. C'est lui-même qui le dit. Donc il n'était vraiment pas prétentieux, hein. Vraiment pas prétentieux. Il disait même, dans mes mots, ne croyez pas tout ce que je vous dis. Si ça ne vous convient pas, rejetez-le. Ça, c'est faire preuve d'une incroyable liberté de pensée. Et c'est ça qui m'a plu dans cette voie de pratique de pleine conscience. Remets en question ce que tu penses, ce qu'on t'a appris, ce dans quoi tu as vécu toute ta vie, les habitudes, juste les façons de penser, comment on pense toujours de la même façon, et ça on ne le sait pas. On pense qu'une habitude c'est seulement des habitudes d'éthique ou bien des façons de vivre ou de s'habiller ou de manger. Mais l'habitude de penser, celle-là, elle est tellement puissante et elle est tellement dominatrice. N'est-ce pas qu'on a tous des habitudes de penser? Comment on juge et comment on voit les personnes qui passent, on dit à ceux. Et peut-être on le fait même, on ne se rend même pas compte, mais ça c'est l'horreur de voir comment on juge et on catégorise et on catalogue. Alors ça c'est, ouvre, prends ta lumière et ouvre ton esprit. Je prends refuge dans mon corps. Je prends refuge. Ça veut dire que j'accepte ce qui est là. Je ne cherche pas un refuge dans le corps de quelqu'un d'autre. Elle est grosse, je suis maigre, il est gros, il est blond, je suis brune. Fais le vide. Fais la lessive. Accepte. Accepte ce qui est là. Et établis-toi dans ce qui est là. Quand tu te lèves le matin, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas améliorer. S'il y a une douleur ou n'importe quoi, tu veux. Non, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Mais pas en se plaignant ou en rejetant ou « Oh, ah, je voudrais tellement, j'aurais tellement voulu que... » Vous savez, le conditionnel, ce n'est pas bouddhiste. J'aurais voulu que, j'aurais dû, les regrets, tout ça, non. C'est un temps qui n'existe pas dans le bouddhisme. C'est le présent. Je suis comme ça, je regarde. Je prends refuge en moi-même. Et je regarde en moi-même ce qui est là et ce que je peux faire avec. Tout à l'heure, nous avons lu le chant du refuge. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Si vous avez été pleinement conscient, vous pouvez m'attraper maintenant. Vous pouvez me dire, mais non, tu viens de dire que le Bouddha a dit qu'on ne prenne pas refuge en lui. On est attrapé par les mots. La notion de Bouddha est une notion. Bouddha était un homme. Jésus était un homme. Moïse était un homme, Mahomet était un homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on prend refuge dans le Bouddha? Bouddha, ça veut dire éveillé, en sanskrit. Il s'est éveillé. Et il ne s'appelait pas Bouddha avant, il s'appelait Siddhartha. Et les premières personnes à qui il a parlé après son éveil, c'était des enfants. Des enfants qui l'entourait, qui le voyait quand il venait s'asseoir sur un coussin de paille. Et il y en avait un en particulier qui, tous les jours, lui mettait de la paille, lui donnait de la paille neuve, propre et fraîche, pour faire un nouveau coussin de paille. Et après sa longue méditation assise, comme un calme s'est établi dans son visage, et les enfants ont reconnu ce calme-là. Ils lui ont dit... Si vous avez lu les traces de Siddhartha, c'est très bien raconté. Tu as changé. Alors, oui, parce qu'il avait compris. Et quand on comprend quelque chose, il y a quelque chose sur notre visage, on est plus serein. il y a des sourires, il y a quelque chose se transforme en nous quand on comprend. Et un enfant a dit, je vais t'appeler, tu as atteint l'éveil, tu as compris quelque chose, on va t'appeler Bouddha, est-ce que je peux t'appeler Bouddha éveillé? Il dit oui. C'est comme ça qu'on dit le Bouddha, comme pour dire la personne éveillée. Sylvie éveillée, Sylvie Bouddha, Marie-Agnès Bouddha, éveillée, on est éveillée. Et le Bouddha, dans son enseignement, il a été plus loin. Il a dit, moi je me suis éveillée à quelque chose, j'ai compris que tout était impermanent, j'ai compris que tout était interrelié dans la vie, tout est interdépendant. Alors, si j'ai compris cela en m'asseyant, tout le monde est capable de le comprendre. Alors, je ne vais pas dire, il n'y a rien là, il y a là. Mais c'est possible, c'est accessible pour nous aussi. Ne pas penser que atteindre l'éveil, c'est... Et on le dit souvent, aussitôt qu'on comprend que si je ne mets pas de l'eau dans cette plante, elle va mourir, ben, c'est un éveil. Alors, on va à l'école pour s'éveiller. On apprend des choses. À la maison, on apprend des choses. On apprend des choses par nous-mêmes. On lit, on regarde, on observe. On comprend. Alors, plus on est attentif et plus on comprend. Alors, on pourrait passer des années à l'université. Ben, j'ai passé des années à l'université, enfermée à la bibliothèque, enfermée dans mon bureau, entourée de livres. Maman gardait mon fils. J'étais vraiment dans un autre monde. Et un jour, vous savez, parfois on étudie, on lit, mais après notre esprit s'en va et s'évade. Mais ça, je ne l'oublie pas, je me vois encore prendre un papier et écrire. Là, je faisais une méditation sans m'en rendre compte et je n'avais pas encore commencé la méditation. Et j'ai écrit, j'ai hâte de finir l'université pour commencer à m'instruire. Pour commencer à m'instruire. Parce que je me suis aperçue que j'étais dans un monde. Pas faux, mais j'étais... que dans le 19e siècle, je ne savais pas, j'émergeais, j'étais pas dans le monde, j'étais pas dans le présent. Alors on peut se perdre dans les livres, on peut se perdre dans des recherches, on peut se perdre dans des tas de choses et on n'est pas là. La pleine conscience nous ramène là, l'instant présent nous ramène. J'ai une petite application à l'ordinateur que j'ai trouvée dans villagedespruniers.net et vous pouvez la trouver dans le site. Ça s'appelle Time Out. C'est très bien fait. Vous êtes en train de travailler et tout à coup, il y a cette, comme votre écran, la lumière s'atténue. Puis après, vous ne pouvez plus rien faire et c'est écrit Time Out. Et selon vos préférences, ça peut durer très longtemps, ça peut durer... Et là, tu t'arrêtes, et puis après, le temps que ça dure, et puis encore, ça t'est... Et puis ça s'en va. C'est très bien fait. Mais quand je l'avais installé, c'était très long. Non, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter comme ça. J'ai en train d'écrire quelque chose, et puis tout à coup, time out, ah, je suis bloqué. Alors après, j'ai découvert les préférences, j'ai réglé. Ok, 5 secondes, ça suffit. 5, tu n'as pas besoin de faire 10 secondes, 20 secondes, c'est très long. Tu peux respirer et après, tu peux régler comme tu veux. Mais pendant que je fais ça, je m'aperçois de moi avec l'ordinateur et de moi en train de travailler et de moi de choisir comment je le veux, quand je le veux, comment je veux faire cet arrêt-là? Eh bien, la pleine conscience, le refuge, c'est la même chose. Comment est-ce que je veux régler mes time-out, mes refuges, dans quoi je veux prendre refuge, dans quoi je veux chercher pour être mieux, pour être bien. Ça demande un exercice, ça demande un devoir. Et tant que vous ne ferez pas ce devoir, personne ne peut le faire pour vous. Maintenant, on vient en méditation, on vient à la maison de pleine conscience, on vient à l'institut, on vient à des ateliers, on vient en soirée. Mais quand vous repartez, vous êtes seul avec vous-même. Vous revenez, on est ensemble. Vous partez, vous êtes seul. Jusqu'à ce que vous arriviez à la maison, vous êtes avec votre famille. Mais de la maison de pleine conscience à la maison, vous êtes seul. On est seul. Alors c'est à nous à faire ce travail. C'est à nous à faire cette recherche. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors on revient toujours aux quatre nobles vérités. Le Bouddha a dit, c'était une autre de sa grande sagesse, l'être humain n'est pas content. Il souffre. Il est insatisfait. Mais il y a une cause. Alors c'est tout. Arrêtez là. Il y a une cause. Alors, dans les questionnaires, on demande « Comment allez-vous? Est-ce que vous avez des problèmes? » Tout ça. Okay. Alors bon, les quelques personnes qui ont écrit ça, on lit. On lit ça et parfois il y a un problème, parfois il y a beaucoup. On appelle ça des problèmes, mais est-ce que ce sont vraiment des problèmes? Il y a un dicton zen qui dit il n'y a pas de problème, c'est seulement une façon de voir les choses. Ça aussi, ça m'avait marqué. C'est ma façon de voir les choses qui pense que c'est un problème. Si moi je déteste que les abeilles tournent autour de mes cheveux, d'autres personnes s'en foutent comme... s'en foutent que les abeilles tournent autour de leurs cheveux. Mais pour moi, c'est un grand problème. Et je n'ai qu'à juste voir chez moi 6 frères et sœurs, je suis le numéro 4. Les choses qui me dérangent à moi et qui ne les dérangent pas du tout. Pourtant, on est dans la même famille. Et je suis celle qu'on taquine le plus parce que pour moi, c'est des grands problèmes. C'est des grands trucs. Ou bien. Alors, c'est très relatif. Alors, revoir ce qu'on appelle problème. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'ait pas l'air d'un problème? Peut-être que c'est un état, que c'est une situation, et tout est impermanent. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle que Thich Nhat Hanh dit. C'est impermanent. Ça peut passer.